RFI 6h à Paris, 5h en temps universel et 7h à Gomain.
Andréane Mellard.
L'heure du journal. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À Goma, les habitants à la recherche de nourriture.
Alors que le groupe rebelle du M23 est désormais présent dans la quasi-totalité du centre et de la périphérie de la ville de l'Est de la RDC, certains habitants ont passé la frontière côté rwandais hier pour tenter de se ravitailler. Reportage à suivre. Dans ce journal également, ces nouvelles libérations d'otages aux mains du Hamas, elles sont prévues aujourd'hui. Ahmed Al-Shara nommé président intérimaire en Syrie. On sera à Washington où un avion de ligne avec une soixantaine de personnes à bord s'est écrasé dans le fleuve Potomac après une collision avec un hélicoptère militaire. Et puis on parlera aussi d'Haïti où des élections générales pourraient se tenir vers la mi-novembre alors que les gangs armés poursuivent leurs exactions.
La RDC ne pliera pas, ne reculera pas, promet Félix Tshisekedi.
Un ton grave et solennel du président congolais hier soir à la télévision. Il a dénoncé une attaque contre la souveraineté de son pays alors que, je le disais, le groupe rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise, est désormais présent dans la quasi-totalité du centre et de la périphérie de Goma. La riposte est en cours, vigoureuse et coordonnée, affirme Félix Tshisekedi, qui dit avoir donné des instructions au nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu pour intensifier les opérations militaires et rétablir l'autorité de l'État. Aux habitants de Goma, le chef de l'État dit ressentir leur douleur. Des gomatraciens qui ont profité de la relative accalmie d'hier après-midi pour sortir à la recherche de nourriture. Et pour ça, ils sont nombreux à avoir traversé la grande barrière, la frontière qui sépare Goma de la ville rwandaise de Gisenyi. Reportage de Lucie Mouillot.
Pour beaucoup d'habitants de Goma, c'est la première sortie depuis le début des affrontements dans la ville ce dimanche. Balika Sereka a découvert les dégâts dans les rues sur le chemin vers la frontière.
On s'est mis à l'abri en bas de l'escalier de la maison, moi avec ma famille. Et on n'a pas bougé de la maison pendant 3 jours. Tout a été détruit, les boutiques, les commerces, tout a été complètement pillé. Certaines personnes qui ont eu le courage de garder un peu de provisions chez eux dans la maison, et c'est comme ça qu'on survit.
À la Grande Barrière, beaucoup traversent juste pour la journée, de façon à récupérer ce qui est devenu presque impossible de trouver à Goma.
Comme ils ont coupé l'internet là-bas, on a du mal à communiquer. Donc c'est pour cela que je suis venu juste acheter une SIM et rentrer à Goma. Les stades d'insécurité, là, c'est déjà révolu. Le pire est passé. Mais ce qui reste, on a besoin de l'eau, de l'électricité et qu'ils ramènent aussi l'Internet.
La petite barrière, point de passage des commerçants transfrontaliers, est restée fermée ce mardi. À Goma, beaucoup, comme David Mugugu Mulenga Byuma, s'inquiètent du manque de nourriture.
Totalement, j'ai peur du fait qu'il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de marché. Je dois avoir totalement peur. Ça devient en tout cas un grand problème.
Les Nations Unies alertent sur la situation très inquiétante dans la ville de Goma. Dans un communiqué publié ce mardi, l'organisation Médecins sans frontières appelle à la garantie de l'accès humanitaire. Lucie Mouillot, Gisenyi, RFI.
Et hier matin, Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda pour une concertation avec les autorités angolaises sur les mesures à prendre dans le cadre du processus de Luanda. Dans la foulée, son homologue angolais, João Lourenço, a officiellement condamné l'offensive du M23 et exigé le retrait immédiat de ses combattants et des forces rwandaises du territoire congolais.
La Cour suprême israélienne a rejeté hier la demande de suspension de l'application des lois votées fin octobre.
Et parmi elles, celle interdisant à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, d'exercer ses activités sur le territoire israélien. Alors ça englobe Jérusalem-Est, le secteur de la ville occupée et annexée par Israël depuis 1967. C'est aujourd'hui, jeudi 30 janvier, que cette loi entre en vigueur. L'incertitude est grande pour des millions de Palestiniens qui dépendent de l'aide fournie par l'UNRWA depuis 75 ans.
De l'aide pourtant nécessaire, notamment à Gaza.
Dévasté par 15 mois de guerre, un cessez-le-feu est entré en vigueur, c'était le 19 janvier. Et il prévoit la libération d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Il y a déjà eu 2 échanges du genre ces derniers jours. Le troisième doit avoir lieu aujourd'hui. 8 otages, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais sont censés retrouver la liberté et sortir de Gaza. Un quatrième échange est prévu samedi. Celles et ceux qui ont déjà été libérés ne se sont pas pour l'instant exprimés sur leur détention aux mains du Hamas. Il faut dire que cette sortie, c'est un long processus, nous explique Daniel Scheck, ancien ambassadeur d'Israël en France. Il est l'un des porte-parole des familles d'otages.
Pendant les premiers jours et souvent les premières semaines, on leur donne un vrai cocon qui leur permet de maîtriser complètement le niveau de contact avec le reste du monde. Qu'ils ne soient pas envahis par gentiment, même par les gens, par la presse. Non, ils sont complètement isolés dans l'hôpital avec leur famille, et c'est eux qui choisissent combien de temps cette période va durer. Et donc, aucune de ces otages n'a parlé à la presse. Quelques-unes ont publié des choses sur les réseaux sociaux, mais ce sont des généralités. Vous avez vu, comme moi, qu'elles avaient l'air passablement en bonne santé, mais vous savez, c'est inimaginable que presque 16 mois de séquestration n'ont pas laissé de séquelles, à la fois physiques et psychologiques. Et nous avons connu, même avec les otages qui ont été libérés après une cinquantaine de jours, en novembre 23, qu'après une sorte de période d'euphorie, il y a une rechute.
Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Jérusalem, Muriel Paradon et Nicolas Benita. Et si les combats ont pour l'instant cessé à Gaza, les autorités palestiniennes ont fait état de 10 morts hier en Cisjordanie occupée après une frappe israélienne sur la ville de Tamoun. Bilan que ne confirme pas l'armée israélienne qui admet seulement avoir frappé, je cite, une cellule terroriste armée.
On le présentait déjà comme le nouvel homme fort en Syrie. Il en est désormais officiellement le président intérimaire.
Ahmed al-Shara a été nommé hier soir par les nouvelles autorités. C'est lui qui a mené la coalition de groupes armés qui, début décembre, avait renversé le régime de Bachar al-Assad. Le voici donc président intérimaire, chargé de former un conseil législatif pour la période de transition. Oui, mais pour combien de temps, on l'ignore. Tout comme on ignore finalement bien d'autres choses, comme les soutiens sur lesquels Ahmed al-Shara va pouvoir compter. Hassni Abidi est le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
On n'est pas certain que toutes les organisations militaires ne vont pas demander des comptes à Monsieur Ahmed al-Shara, puisque c'est lui qui va diriger. Il va s'appuyer sur quelle organisation et comment elle va se dérouler finalement l'entrée ou la dissolution de tous les groupes au sein de l'armée nouvelle. Et des questions qui se posent sur l'ancienne armée. On sait que l'ancienne armée, elle n'était pas toute proche de Assad et que normalement la Syrie a besoin d'appareils sécuritaires, même transitoires. Alors évidemment, Monsieur Ahmed al-Shara, il répond à une exigence de la part de plusieurs États avant de lever les sanctions, c'est-à-dire dissoudre les organisations terroristes et construire une nouvelle armée nationale pour espérer une levée même partielle des sanctions. Mais la question aujourd'hui, c'est que le vide, il s'installe et M. Ahmed al-Shara, tout seul, sur qui va s'appuyer et quelles seraient les institutions qui vont gérer la transition avant la rédaction de la nouvelle constitution. M. Shara ne donne aucun délai, il ne donne aucun agenda sur cette phase.
Des propos recueillis par Eike Schmidt.
RFI minuit 7 à Washington où un avion de ligne s'est écrasé.
Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial permanent sur place, Guillaume Nodin. Guillaume, il s'agit en fait d'une collision qui a eu lieu tout près de l'aéroport le plus proche de la capitale fédérale.
Oui, ça s'est passé vers 21h30 local. Un avion American Airlines avec à bord 60 passagers et 4 membres d'équipage qui avaient décollé de Wichita au Kansas étaient en approche de l'aéroport Ronald Reagan où je me trouve et qui accueille les vols nationaux. Et au même moment, dans le même espace aérien, se trouvait un hélicoptère militaire de type Black Hawk avec 3 soldats à bord pour un vol d'entraînement. Les deux appareils se sont percutés avant de s'écraser dans le Potomac, le fleuve qui traverse la capitale américaine. Les secours sont sur place pour tenter de retrouver des survivants. J'ai pu voir de nombreux camions de pompiers transportant des bateaux arriver sur place et je peux actuellement apercevoir leur gyrophare au loin. On ne sait pas encore exactement ce qu'il s'est passé ni le bilan exact, mais cela s'est déroulé dans un espace aérien particulièrement chargé. Le National Airport, comme disent les habitants de Washington, connaît un trafic permanent très proche du centre-ville, qui est à 10 minutes en voiture. Pas très loin se situe une base aérienne qui accueille d'ailleurs souvent l'hélicoptère présidentiel Marine One. Et on peut très souvent voir et entendre ces hélicoptères circuler dans le ciel de la capitale.
Ah, merci Guillaume Nodin et que Dieu bénisse les victimes, a réagi le président américain qui dit surveiller la situation. Donald Trump qui poursuit sa politique anti-immigration. Hier, il a dit préparer l'envoi de quelques 30 000 migrants sans papier présentés comme des criminels à Guantanamo, la prison située sur la base militaire du même nom.
En Haïti, des élections générales vers la mi-novembre, c'est ce que dit espérer Leslie Voltaire, le président du conseil présidentiel de transition dans le pays.
Il est l'invité de RFI et de France 24. Entretien à écouter après le journal de 6h temps universel. L'occasion de revenir avec lui sur la situation sécuritaire en Haïti, en proie aux violences de gangs. Hier, le président français Emmanuel Macron, qui a reçu Leslie Voltaire à Paris, a appelé les Nations Unies à envisager une opération de maintien de la paix, car ces gangs poursuivent leurs exactions sanglantes dans la capitale Port-au-Prince, mais aussi dans les zones plus reculées. La commune de Kenskoff, perché sur les hauteurs, en a fait les frais en début de semaine. Plusieurs personnes ont été tuées, dont 12 membres d'une même famille. Le récit depuis Port-au-Prince de Peterson Luxema.
À Kinskov, jadis, un refuge loin du carreau de Port-au-Prince, les gangs armés ont frappé vite et fort, laissant la population dans l'angoisse, comme ce père de trois enfants qui cite les noms de ses proches tués par des bandits.
Ils ont enlevé le père d'un jeune homme nommé Léger. Ils l'ont tué puis brûlé près de chez moi. Un autre citoyen qui tentait de fuir a été capturé et décapité. Madame Jacques, une sœur de mon église, a aussi été décapitée et les bandits sont partis avec sa tête.
Des violences d'une brutalité inouïe. Au total, 12 membres d'une même famille ont été froidement exécutés. Les parents ont été tués près de leur domicile, tandis que les autres victimes ont été retrouvées à l'intérieur de la maison. Seul un membre de la famille a survécu en raison de son absence lors de l'attaque. Ce qui s'est produit à Kinskov est tout simplement inimaginable, selon Naïka, qui n'a plus de nouvelles de ses proches depuis l'offensive des gangs.
J'ai des membres de ma famille qui ont vu leur maison et leur boutique prises par les bandits. Ils se sont installés dans la maison maintenant. Mais ses proches, je ne les vois plus. Je ne sais pas où ils sont.
Kinskov, territoire autrefois paisible, devient un nouveau théâtre de la guerre des gangs. Du côté des autorités en place, c'est le silence radio. Et les actions posées par la police nationale sont comme des coups d'épée dans une mer agitée. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Un mot de football et ça passe pour le Paris Saint-Germain, finalement qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions après sa victoire 4-1 hier soir face à Stuttgart. Qualification également arrachée par Manchester City qui l'a emporté 3-1 face à Bruges.
On termine en musique.
Avec un avant-goût, Andréane, de notre choix musical du jour. Bumcello, duo iconique de la scène alternative française. Ils seront en concert demain à Paris. Lucie Bouteloup avec leur dernier album The Party.
Dans Bumcello, il y a Bum, Cyril Atef à la batterie et au chant, et puis aussi Cello, Vincent Segal au violoncelle électrique. Deux personnalités aussi différentes que complémentaires. Yo, what the fuck is going on now? Looks like you wanna bust the cap now. Avec ce 9e album, comme sur les précédents, le duo explore tous les styles musicaux. 15 titres aux influences qui vont du jazz à la pop, du dub à la musique à la oui, mais aussi du compas haïtien ou encore des rythmiques africaines. Un éclectisme qui est leur marque de fabrique. Cyril Atef.
Je pense que les deux, on est extrêmement curieux musicalement. On a beaucoup voyagé, beaucoup collaboré avec des musiciens dans plein de pays différents. Jamais voulu vraiment faire partie d'un style musical. Ça m'a jamais intéressé.
Avec The Party, Bumcello célèbre son retour après 6 ans d'absence, une fête à vivre en live, puisque le groupe est aussi connu pour ses concerts endiablés et son goût pour l'improvisation.
Bumcello en concert demain à Montreuil en banlieue parisienne. Quant au choix musical du jour, ce sera juste avant le journal de 9h heure de Paris.
Merci Gaëtan Plenem. 6h13 à Paris, RFI Matin, c'est le début de 3 heures d'information. Notre tour du monde de l'actualité comme chaque jour qui nous emmènera ce matin bien sûr en République démocratique du Congo. On suit de près la situation à Goma dans l'Est après l'allocution hier soir du président du pays. Félix Tshisekedi assure qu'une riposte est en cours et appelle à la mobilisation. On y revient dans nos journaux chaque demi-heure. Le dossier du 8h ce matin revient sur ce rapport remis mardi au président Paul Biya et qui éclaire sur le passé colonial entre la France et le Cameroun. Karine Ramondi, l'une des autrices de ce rapport, est notre invitée ce matin. Rendez-vous dans une demi-heure. Autre invité aujourd'hui sur RFI, le président du Conseil présidentiel de transition en Haïti, Leslie Voltaire. Arnaud Pontus viendra nous en dire plus sur cet entretien dans 5 minutes. Également ce matin, on parle de la Syrie, d'Israël, des États-Unis, de la Corée du Nord dans une poignée de secondes. Et puis aussi le sport, la presse, comme chaque jour. C'est le programme jusqu'à 9h. Il déambulait hier encore au cœur d'une usine d'enrichissement d'uranium. Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, qui a affirmé que son pays poursuivra indéfiniment son programme nucléaire. Et pour l'agence de presse officielle nord-coréenne, le dirigeant a même parlé de 2025 comme d'une année cruciale pour renforcer les forces nucléaires du pays. Mais c'est sans compter sur un élément nouveau, ou presque, sur la scène internationale. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche depuis une dizaine de jours, pour un responsable américain du Conseil Conseil de sécurité nationale, le milliardaire républicain va chercher la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, comme il l'a fait lors de son premier mandat. Jusqu'ici, Donald Trump a multiplié les appels du pied à l'égard de Kim Jong-un. Il veut dialoguer, mais le dirigeant nord-coréen semble pour l'heure hermétique. Pour en parler avec nous ce matin, Nicolas Roca du service international d'RFI est en studio. Bonjour Nicolas.
Bonjour Andréane.
Alors que propose Donald Trump à la Corée du Nord ?
Eh bien pour le moment, pas grand-chose, rien de très précis, mais il parle beaucoup de son grand ami.
Kim Jong-un.
C'est un mec intelligent, un dur à cuire, je vais essayer de le contacter. Voilà quelques-unes de ses nombreuses sorties sur la Corée du Nord depuis son arrivée à la Maison Blanche. Mais il ne répond pas à la grande question, Andréane, sur quelle base est-ce qu'il compte négocier avec Kim Jong-un.
Les discussions entre les deux hommes s'étaient soldées sur un échec en 2019 à Hanoï et puis lors d'une autre rencontre à la frontière intercoréenne. Et l'un des points de désaccord était une approche différente de la dénucléarisation de la Corée du Nord.
Oui, c'est le terme au cœur des négociations. L'idée était la suivante. En échange de l'abandon total ou partiel du programme nucléaire nord-coréen, Pyongyang obtenait un allègement ou un arrêt des sanctions de l'ONU. Un scénario qui n'est plus d'actualité pour Jenny Town, directrice du think tank sur la Corée du Nord, 38 North.
Kim Jong-un se voit plus puissant politiquement, militairement et dans une meilleure position. Il sait pertinemment que Trump veut négocier. Mais est-ce que ce sera à propos de la dénucléarisation ? J'en doute.
Car depuis la dernière rencontre entre les deux hommes, tout a changé. Kim Jong-un s'est rapproché de la Russie en envoyant plus de 10 000 hommes soutenir la guerre de Poutine en Ukraine. Ses scientifiques ont placé un satellite de reconnaissance en orbite. Ses ingénieurs ont développé de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux. Et puis son armée a augmenté son stock de bombes atomiques. Le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord, Andréane, est même inscrit dans sa constitution.
Alors si Kim Jong-un n'est pas prêt à renoncer à l'arme atomique, sur quoi peuvent porter d'éventuelles négociations ?
Eh bien potentiellement sur le contrôle des armes nucléaires. Les experts estiment que Pyongyang dispose d'une cinquantaine de bombes atomiques et veut en développer plus. Mais négocier une pause du programme d'armement nord-coréen suppose une vraie transparence, pas vraiment le fort de la Corée du Nord, mais surtout des concessions mutuelles. Difficile d'imaginer la classe politique américaine accepter un tel scénario. Tout reste à faire, vous l'aurez compris, mais malgré ces obstacles, Donald Trump semble déterminé à avancer.
Quel que soit l'accord qu'ils signent, s'ils en signent un dans les quatre prochaines années, la question n'est pas de savoir si cet accord plaît aux États-Unis, si cela sera critiqué, car n'importe quel accord sera critiqué et il le sait. Mais c'est une mission personnelle pour lui et il se crée l'espace politique pour essayer d'y parvenir.
Reste à convaincre Kim Jong-un qui pour l'instant garde son cap, plus d'armes nucléaires pour protéger son peuple de l'ennemi sud-coréen et américain.
Nicolas Roca en direct avec nous pour la Une en Asie. Merci à vous, RFI Matin. Prochain journal dans un peu plus de 10 minutes. L'actualité marquée aussi ce jeudi par la situation en Haïti, alors qu'Emmanuel Macron lançait hier cet appel. L'ONU doit envisager une opération de maintien de la paix face à la violence des gangs en Haïti. Déclaration alors que le président français recevait à Paris Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition dans le pays. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Leslie Voltaire est ce matin l'invité de RFI et de France 24.
Oui, Leslie Voltaire achève une mini-tournée. En Europe, il a rencontré le pape au Vatican il y a quelques jours et donc Emmanuel Macron à l'Élysée hier après-midi. À l'issue de sa rencontre avec le président français, il a accordé un entretien à France 24 et RFI. Avec Marc Perelman, nous avons fait le point avec lui sur la situation sécuritaire en Haïti. Ces gangs dont vous nous parliez, 85% de la zone de la capitale Port-au-Prince est aujourd'hui contrôlé par les gangs. Le secrétaire général de l'ONU craint même une prise de contrôle totale et un effondrement de l'État. Mais le président de transition veut croire que les gangs sont en train de reculer sur certains fronts. Il réclame au passage plus de soutien et d'aide extérieure. Avec lui, nous avons aussi parlé élections, puisque Haïti n'a pas organisé de scrutin depuis 2016. Et Leslie Voltaire nous annonce des élections générales autour de la mi-novembre.
Rendez-vous 6h20 en universel pour cet entretien avec Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition en Haïti. C'est avec vous Arnaud Pontus pour RFI et Marc Perelman de France 24. En France, Mayotte, un mois et demi après le passage dévastateur et meurtrier du cyclone Chido, deux semaines après la tempête tropicale Dikeledi, le ministre français de l'Outre-mer, Manuel Valls, et Elisabeth Borne en charge de l'éducation sont attendus sur place aujourd'hui, alors que la rentrée des classes a eu lieu ce lundi à Mayotte dans des conditions de forte précarité, une rentrée bâclée selon une partie du corps enseignant dans des locaux abîmés où tout manque, des manques auxquels tente de répondre une partie de la société civile, notamment en métropole, à l'initiative de la communauté mahoraise et comorienne. C'est le cas en Provence, où des collectifs continuent de récolter et d'envoyer de nombreux dons vers l'île. Siam Spencer.
Départ de Marseille avec un camion prêté par un bénévole de l'association Ambre.
On part en direction de Toulon. Et là, c'est parti, on a rendez-vous là-bas pour 14h, on va récupérer des denrées alimentaires.
C'est Naher, le président de l'association qui s'occupe d'aller chercher les dons.
Alors actuellement, on est en train de charger tout ce qui est liquide, donc eau et lait. Ensuite, on va charger les cartons de pâte, riz, conserve, couscous. Et par la suite, si on a de la place, on va mettre le matériel médical. Et si vraiment il nous reste encore de la place, on va prendre les vêtements.
Mais rapidement, le camion marseillais est plein à craquer.
Nous, on va essayer de trouver un deuxième camion pour mettre tout dedans.
Abdou est président de l'Union mahoraise de Toulon.
Comme ça, on vous suit. Comme ça, on déballe tout là-bas. Ça sera bien que tout part, quoi. Là, si ça reste là, il faut encore attendre une semaine ou deux semaines. Ça va retarder. Et il y a des gens qui en ont besoin, quoi. Donc, on va essayer de trouver un camion. C'est mieux, ouais.
20 minutes plus tard, un camion remorque appartenant à un des bénévoles se gare sur le parking.
Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que tout va là-bas dans l'île déjà, à Mayotte. Après, c'est à eux là-bas de voir comment ça se passe, quoi. Parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, des gens qui n'ont même pas d'endroit pour dormir, s'habiller, manger, tout ça. Donc, on essaye de faire le geste. Voilà.
Parce que là, c'est surtout de l'alimentaire.
Il y a beaucoup, beaucoup de l'alimentaire aussi, il y a beaucoup des vêtements, il y a de tout en fait. Il y a des jouets, il y a des trucs hygiène aussi, des dentifrices, de tout.
Plus de 60 gros cartons en tout, des dons qui affluent depuis des semaines ici à Toulon, explique Cassim, un bénévole comorien.
On a rassemblé tous les gens de Toulon, que ce soit malgache, anjouanais, comorien, mahorais, et franchement, ça a bien marché.
Une mobilisation qui ne doit pas s'arrêter là pour lui.
C'est continuer surtout, c'est pas qu'aujourd'hui seulement. La crise ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On a fait cette action, il ne faut pas lâcher. S'il faut une fois par mois relancer les dons, il faut le faire. La reconstruction de Mayotte, ça ne se fera pas en un jour. Les vies, les gens, la misère, ça ne s'arrêtera pas en un jour, donc il faut continuer.
Une fois les camions chargés, puis les dons déposés dans un hangar à Marseille, l'heure du bilan avec Naher.
Alors là, on vient de décharger tous les dons qu'on a récupérés sur Toulon, chez les collègues. On a pratiquement 7 à 8 tonnes de denrées alimentaires et de vêtements avec matériel médical.
Des dons qui partiront par la mer et mettront un peu moins de 2 mois à arriver jusqu'à Mayotte.
Un reportage de Siam Spencer et ce jeudi sur RFI concernant Mayotte et l'après-cyclone Chido. Vous pouvez retrouver notre grand reportage du jour signé Justine Rodier. Rendez-vous sur toutes les plateformes et à 11h10, temps universel. Chido, dévastateur et meurtrier au cœur de notre question d'environnement ce matin. Si on a pu constater les conséquences humaines et matérielles de son passage, quelle portée a eu ce cyclone sur la biodiversité marine. Les agents du parc naturel marin de Mayotte effectuent les premières plongées sous-marines pour évaluer justement les dégâts dans l'un des plus grands et des plus rares lagons fermés du monde. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors avant de parler des destructions, précisons que le récif corallien a joué son rôle de protection des terres.
Effectivement, Mayotte est entourée d'un double récif corallien avec un récif barrière qui ferme quasiment le lagon et un deuxième récif dit frangeant, c'est-à-dire relié à la terre dans des eaux peu profondes. D'après Météo France, lors du passage du cyclone, les vagues mesuraient 9 mètres avant de franchir le récif barrière. Elles ne faisaient plus que 4 à 5 mètres une fois ce dernier franchi. Puis le récif frangeant a lui aussi atténué l'ampleur des vagues. Et enfin, la mangrove a joué son rôle de protection de la côte. Selon les spécialistes, les dégâts sur terre auraient été plus dévastateurs sans ces deux écosystèmes.
Les récifs ont donc protégé la côte en revanche, eux, ont subi de plein fouet l'impact du cyclone Chido.
Oui, principalement sur la partie est par où le cyclone est arrivé. Mais il y a eu un facteur aggravant. En 2024, Mayotte a subi les effets du phénomène climatique El Niño, avec le réchauffement de l'océan et son acidification. Eh bien, le récif corallien a subi un épisode de blanchissement qui l'a fortement fragilisé. Johan Doucet est le chef de service ingénierie du parc naturel marin de Mayotte.
En mettant une première fois la tête sous l'eau, on a des zones qui sont particulièrement bien préservées et d'autres où il n'y a plus rien, où avant justement on avait une richesse, une biodiversité assez importante. Et en l'occurrence, sur le phénomène El Niño de l'année dernière, on avait pu mesurer juste avant le cyclone l'impact du blanchissement corallien dû à cet effet-là, et on avait estimé voilà une mortalité moyenne déjà à 35% des coraux qui étaient présents, et aussi une fragilisation en fait d'un bon nombre d'entre eux. Et donc il est possible que derrière, avec le passage de Chido, des récifs qui étaient déjà fragilisés n'aient pas pu résister à l'impact de Chido.
Et certains lieux sous-marins iconiques de Mayotte ont été durement éprouvés. Côté faune, les espèces mobiles, comme les poissons, les mammifères ou les tortues, ont pu se mettre à l'abri. En revanche, précise Johan Doucet, elles ont perdu leur habitat, ce qui pourrait les inciter à fuir. Cet écrin de biodiversité qui est Mayotte a donc payé un lourd tribut lors du passage de Chido.
Et il faudra donc du temps, des décennies pour reconstituer ce milieu marin.
Oui, et c'est essentiel selon les spécialistes, et pour plusieurs raisons. Reconstituer cette barrière protectrice, protéger la biodiversité et ainsi eh bien, les ressources alimentaires et économiques. Pour cela, il faudra la collaboration de l'ensemble de la population pour protéger le lagon des menaces qui pèsent sur lui en temps normal, comme l'envasement provoqué par l'agriculture et les constructions, le braconnage et la gestion des déchets. Un appel aux citoyens pour voir revivre un trésor mondial de biodiversité.
Igor Strauss en direct avec nous pour la question d'environnement sur RFI. Merci beaucoup. Juste avant le journal, ce sera dans 4 minutes, un petit passage par notre playlist RFI du mois. Aujourd'hui, Vendredi sur mer avec Annie El-Khatib et le titre Hard.
Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Fais-le en vrai, ouais, bébé. Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal.
With all that bass, howling at the moon, talking all that space, but I know that was a vibe. At the moment, it don't feel like it. Shut aside my vibe. Take a minute, then we breathe light. Some space, then we do right. I don't know what this has become, yeah. But all these feelings got me on the run. Hey, did it to myself, you know.
Le titre Hard par Vendredi sur Mer avec Annie El-Khatib à retrouver sur la playlist RFI de ce mois-ci sur toutes les plateformes d'écoute. Vous restez avec nous, RFI et Édouard Dupénoy pour l'info dans une minute.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée mondiale des maladies tropicales négligées.
Demain,
question de femmes, nous parlons des symptômes et traitements des troubles et maladies de la thyroïde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Démographie et écologie, nous sommes 8 milliards, c'est 8 fois plus qu'il y a deux siècles, mais sommes-nous réellement trop nombreux? Eh bien non, répondent nos invités, car alimentation, logement, loisirs, tout dépend de nos modes de vie.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU.